Place Info.
Toute l'actualité des médias, c'est avec vous Didier Sciamour, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
C'est donc la fin de la publicité sur Twitter, Steven Gouaillet nous en parlait.
Oui, tout à fait, c'est Jack Dorsey, le cofondateur du réseau social, qui l'a annoncé hier. Il a dit, il a écrit sur Twitter un certain nombre de tweets où il expliquait que la décision de mettre fin à toute publicité politique sur Twitter dans le monde entier, et dans son message, il estime en effet que la portée d'un message politique doit se mériter et pas s'acheter. Alors Jack Dorsey, en cela, se différencie de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui lui a défendu les messages politiques sur son réseau, y compris s'ils comportaient des mensonges ou des contre-vérités, et cela au nom de la liberté d'expression.
Ce soir, M6 consacre sa soirée à Jamel Debbouze. Elle diffuse d'abord son dernier spectacle en direct depuis Lille, Maintenant ou Jamel, suivi d'un documentaire consacré à l'humoriste. Son réalisateur est l'invité de France Info ce matin.
Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Thomas Secaldi. Alors, vous êtes auteur de nombreux documentaires. Dans celui-ci, vous vous intéressez à l'un des comédiens et humoristes préférés des Français. Mais c'est un document particulier. Vous le suivez durant toute l'année qui précède son retour sur les planches, dont il avait été absent durant 6 ans.
Si j'ai attendu aussi longtemps, c'est parce que je voulais être sûr d'avoir quelque chose à dire. Je voulais être sûr d'emmener le truc un petit peu plus loin, ou en tout cas différemment, et puis surtout de me surprendre et de surprendre, tu vois. Je me mets dans la merde en faisant ce sketch, Mohamed. Quand je dis, mais moi j'accepterais, moi. Tout a changé, tout a bougé. Moi j'ai changé. Le monde a changé. Donc oui, on a des choses à raconter.
Ça donne fou aux États-Unis. Donald Trump, président des États-Unis. Pourquoi pas Dingo Maire de Toulouse?
Le chemin, je le connais. Je connais le chemin. Tu vois, c'est le Kilimandjaro.
Lance.
Là, je suis juste sur scène. La seule chose qui m'intéresse, c'est de monter sur scène et de rentrer chez moi.
Je sais que ça va être laborieux, dur. Je sais que ça va être compliqué.
Et alors, ce tournage, il a été laborieux, dur, compliqué également, Jean-Thomas Segaldi?
Ah, oh que non, non. Oh que non, non, il a été très, pour eux, je dis eux parce qu'il y a beaucoup de collectifs autour de Jamel, il est comme il dit souvent, il est seul sur scène mais il a beaucoup de gens avec lui, c'est très important, donc pour eux ça a été compliqué parce que l'accouchement est beaucoup plus complexe et réfléchi que ça peut paraître évidemment quand ça paraît sur scène, mais pour moi, du moment où j'étais accepté dans ce petit cercle intime et où j'ai essayé de m'y faire discret, c'était plutôt... Non, c'était pas compliqué. Enfin, c'était y a un travail de comment dire, de faut qu'on s'apprivoise les uns les autres, mais ça fait partie du boulot normal. C'est plutôt sain de
presque se faire oublier.
Exactement, carrément se faire oublier, se faire discret, être discret. Je pense que c'est le bon mot. Partager, parfois filmer beaucoup, parfois filmer pas du tout. Parler, être là, se taire, se mettre dans l'ambiance et puis essayer de capter ce qui se passe, mais ça c'est, enfin pour moi c'est que du bon quoi.
Bon, alors, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de le suivre pendant tous ces mois, depuis Arles jusqu'à Paris? C'était de montrer le processus de création?
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait Mélissa Torio, qui est donc la productrice, moi je travaillais avec Mélissa, qui donc évidemment est la femme de Jamel, je travaillais avec Mélissa sur des docus de société. Moi je fais pas de... C'est plutôt ça mon cœur de métier. Et elle connaissait par définition le processus d'écriture et elle savait à quel point il était complexe comme ça, travail d'orfèvre et fait de nombreux allers-retours et fait de beaucoup de choses que le public soupçonne pas. Et surtout pas vis-à-vis de Jamel, qui est tellement comme ça connu pour une certaine image. Donc voilà. Donc elle m'a parlé de cette chose-là. Et moi, ça m'a intéressé parce que c'est à la fois, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le personnage, on se dit que forcément il est intéressant vu tout ce qu'il draine, ce qu'il raconte, le nombre de gens à qui il parle, le nombre de gens très différents à qui il parle. Et en même temps, il est très connu et très. Il a été beaucoup vu, il a beaucoup parlé. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on n'a pas vu,
qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Ouais.
Mais c'est ça qui était intéressant d'essayer d'aller raconter, de voir par où on passe. Quoi.
Alors vous nous expliquez que c'est quand même sa compagne, sa femme qui partage sa vie, qui est la productrice. Est-ce que pour vous c'était un travail de commande? Quelle était votre marge de manœuvre par rapport à ça?
Alors c'est elle qui a eu l'idée. Ma marge de manœuvre, elle était totale dans le sens où moi, elle m'a donné les clés du camion en disant voilà, si tu veux, tu y vas. Si eux veulent de toi, il fallait voir si ça prenait. Je l'ai pas vu, moi je l'ai vu en montage, Mélissa, après. Je l'ai pas vu, je l'ai vu une fois sur le tournage, on le voit dans le film, oui, parce qu'elle apparaît au début, hein. Elle apparaît une première fois, mais sinon, ma marge de manœuvre était, essaye-toi avec ce que tu es et avec ce que tu captes de nous raconter cette histoire-là. Et d'essayer d'aller trouver un peu les pleins et les déliés du personnage. Mais j'ai fait ma vie sans elle. Mais aussi parce que je me suis immergé dans ce groupe qui est celui de Jamel au travail et en création avec ses auteurs.
Oui, Mohamed Hamidi et Hichem Lamri, qu'on voit beaucoup, ses co-auteurs.
Absolument, ouais, c'est un trio magique.
Mais donc, ça veut dire quand même que vous aviez même le montage final, c'est vous qui le validiez, il n'y avait pas besoin de... D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a un doute, s'il y a un doute chez Jamel, on le sent beaucoup à travers ce documentaire, on sent également qu'il y a le plaisir de renouer avec son activité première, hein, le one-man show, le stand-up, et puis il y a un ras-le-bol aussi peut-être un peu de tout ce qui l'accapare depuis plusieurs années.
Ouais, c'est ambigu, parce que à la fois c'est un ras-le-bol, c'est pas un vrai ras-le-bol, parce que tout ce qui l'accapare, c'est quelque chose qu'il a créé, qu'il a eu envie et même besoin, je pense. Enfin voilà, tout ce qu'il a mis en place, le Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire, c'est des choses qu'il a eu envie de faire. Donc c'est un vrai faux ras-le-bol. En revanche, il y a eu un moment où il a eu envie comme il le dit, hein, je le cite, de redevenir un artiste. Alors moi, je pense qu'il a jamais cessé de l'être, mais le fait est qu'il fallait qu'il se reconcentre sur cette chose-là. Pour se reconcentrer sur ce qu'est sa première langue, ça passe par du doute, effectivement. Et moi, j'aime bien qu'un artiste de ce calibre-là montre le doute. Je trouve ça presque inspirant pour d'autres, pour tout le monde, de dire, on repart de zéro, on a des doutes, on se pose des questions, de quoi on parle, comment, pourquoi, avec qui, avec quels mots, on travaille, on retravaille. Le doute, enfin moi, c'est quelqu'un qui ne douterait pas, au-delà des artistes,
ce qui fait avancer.
Ouais, je crois.
Une belle valeur, le doute, on a bien compris avec vous, Jean-Thomas Sekaldi. Vous réalisez donc ce documentaire Dans la tête de Jamel Debbouze, diffusé ce soir à 23h05 sur M6, car juste avant, il y a le spectacle en direct depuis l'île de Jamel Debbouze, maintenant ou de Jamel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci beaucoup à Didier Siamour, spécialiste média.